Donc on est aujourd'hui accompagné de David Princey. David, est-ce que tu veux peut-être te faire une, je pense que la majorité des gens te connaissent, mais voilà, une courte introduction.
Alors bonjour, moi enfin, je travaille chez Binance avec toute mon équipe que vous voyez aussi à Binance France. Et justement, ça va être un webinaire en français, un webinaire sur enfin un live sur justement le travail de 2024 et tout ce qui va ça et tout ce qui va s'y préparer.
Ouais. Merci beaucoup. Donc pour ma part, Émile Stantina. Donc je suis en charge de la partie éditoriale pour Coin Tribune France, la version anglaise aussi, et Cointelegraph France. Et aujourd'hui, on vous propose ce podcast en exclusivité avec David Princey pour parler un petit peu des grands événements marquants de l'année 2024. Bonjour à tous tout d'abord. Et puis, je pense qu'on peut dans le vif du sujet. Je pense que c'est peut-être important qu'on passe 5 minutes ou 3 minutes sur une rétrospective rapide de l'année 2023. Qu'est-ce que tu en penses?
Ouais. Alors, je regarde aussi les questions et les
Oui,
messages sur le chat.
tout à
Donc,
fait.
n'hésitez pas si vous avez des questions, des points, on les prendra assez à la suite. En 2023, on va dire, ça a été une année assez résiliente, avec quand même beaucoup de difficultés pour les acteurs du secteur et un marché qui était en perte. Mais en même temps, un retour à la normale. Et les signes d'un marché qui se reconsolidait. Donc, une sacrée année, mais une sacrée année comme on en vit souvent. Dans beaucoup de cycles de crypto, la troisième année du cycle est toujours très très dure à encaisser. Et en fait, elle nettoie le milieu. Donc, tout ce qui ne tient pas s'effondre à la troisième année. Ça purge. On a vu ça chez pas mal d'acteurs. On a vu que ça a été une année compliquée aussi, un peu pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu forcément de meilleures décisions.
C'est vrai, c'est plutôt le marché qui s'est construit. Bon, un long bear market, il faut le dire quand même, par rapport au cycle précédent. Mais bon, comme on le dit un petit peu pour les personnes du secteur, c'est là où on build, c'est là où on crée et on construit un petit peu toutes les choses sur lesquelles on continue les fondamentaux, les bases, pour pouvoir un petit peu construire le bull run qui vient en suivant, quoi. Et du coup, on a vu quand même que le prix, on sait pas pour partir sur le prix, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais qu'il y a eu quand même un engouement fin d'année 2023, aux alentours d'octobre, justement, pour ces histoires d'ETF. On peut peut-être directement passer au sujet des ETF. Qu'est-ce qu'il en a été de 2023 à ce sujet?
Alors, je vois beaucoup de questions sur le prix, sur l'ETH, il va être à quel ou, les prédictions, elles sont où, etc. Donc, je vais pas faire de conseils financiers, mais je vais rentrer direct dans le sujet.
Allez.
Et excuse-moi, je vais brûler deux, trois étapes dans la question.
Allez, on y va, on y
Déjà, les
va.
prédictions n'ont valeur que de prédictions. Quand vous nous demandez quelles sont vos prédictions sur Manta ou d'autres coins, comme je vois, je peux vous donner une prédiction. Après, est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est fausse? Ça, j'en ai rien à faire. Donc, on va éviter d'en faire. Ce qui va se passer en 2024 et ce qui est assez intéressant, on a déjà vu donc l'émergence des ETF avec un relative désorganisation dans leur annonce, mais l'histoire ne le retiendra pas, on va dire. Et en même temps, on voit bien que l'ETF aura une utilité. Néanmoins, son action sur le prix, elle a été bien moindre que ce qui a été rapporté par la presse ou le potentiel qui a été imaginé. C'est une vraie leçon qui se répète tout le temps, hein. C'est-à-dire que on a toujours tendance à inflationner les nouvelles et à
Oui.
imaginer qu'elles ont plus d'impact qu'autre chose.
Parce
Par
qu'elles vont
contre, on
avoir
va vers une
réellement.
analyse qui est très très cyclique du marché. Et moi, c'est la façon de faire cette analyse. Le cycle se répète à peu près tous les 4 ans avec comme point de départ un halving. 3 mois plutôt calme, mais sur une pente ascendante, et après un emballement du marché qui commence par les coins majeurs tels que le Bitcoin, l'Ethereum, et après un déversement vers les altcoins et une altcoin saison, Et là, c'est la fête des narratifs. C'est le jeu étant de trouver quel est le prochain narratif, de s'y positionner avant qu'il explose et d'y assister. Donc voilà à peu près comment je vois à peu près l'année 2024, mais aussi ce qui s'est passé. Concernant l'ETF, vraiment au point particulier, moi, ce n'est pas un sujet qui me passionnait, mais je suis très, très volontairement orienté. Pour deux raisons. Déjà, la première, elle est idéologique, c'est qu'on a créé le Bitcoin pour le décorréler d'une crise financière, mais d'un produit ETF, pour moi, ça le recorrèle. Donc, ça me fait un peu mal à la tête d'entendre ça. La deuxième, c'est que pour moi, on reste dans un marché de retail quand même. Et je n'ai pas envie de sortir de ce marché-là. Et donc, pour moi, c'est nul et non avenu. Et en plus de ça, je suis européen. C'est-à-dire que les ETF américains, j'y ai pas accès. Bon, voilà.
Bon, avant de rentrer dans le sujet, c'est intéressant ce que tu dis sur les Européens n'ont pas accès à ces ETF. Avant de passer à cette question, j'aimerais plutôt parler, voilà, avoir ton avis sur est-ce que les ETF, déjà, c'est une bonne chose pour Bitcoin ou pas? Est-ce que, tu vois, moi je me rappelle toujours BlackRock avec Larry Fink en 2017, voilà, tu sais très bien ce qu'ils étaient en train de raconter au sujet de Bitcoin. Ces fameux adjectifs. Bon, bah maintenant, ils ont un petit peu retourné leur veste et puis pour accepter ces fameux ETF et donner un peu la porte ouverte à toutes les grandes institutions. Est-ce que ça, pour toi, c'est fondamentalement une bonne chose pour le Bitcoin parce qu'il s'institutionnalise ou est-ce que c'est plutôt on va dans le sens inverse plutôt
Bon,
quelque
non, il y a
chose
une
de
partie de moi,
négatif?
c'est dual et c'est comme tout, tout dépend de ce qu'on en fera. Il y a une partie de moi, personnellement, qui me dit, bon, on s'en fout. Il y a une partie de moi qui me dit, effectivement, ça met la loupe sur un phénomène. Néanmoins, et c'est comme avec Internet, si tu veux. Enfin, tu vois, les grands groupes au départ ont raté le virage d'Internet. Ils l'ont pas pris parce qu'on leur a offert sur un plateau une solution. Ils ont pris parce que ils n'avaient pas le choix. Et pour moi, les innovations, bah voilà, il n'y aurait pas eu les ETF, la démocratisation se ferait quand même. Avec les ETF, ça peut se faciliter, tout comme ça peut amener à certaines dérives, hein. On parle beaucoup des dérives d'un secteur non régulé. On va découvrir aussi les dérives d'un secteur régulé.
Oui, on est d'accord, tout à fait. Les dérives d'un secteur régulé, ça c'est pas mal. Du coup, si on revient un petit peu sur les Européens, donc les Européens n'ont pas accès aux ETF jusqu'alors. Donc est-ce que pour toi, justement, l'Europe doit servir d'exemple? Et est-ce que prochainement, on pourrait voir des ETF accessibles en Europe? Ça serait une logique. Qu'est-ce que
Bah
tu en
non,
penses?
parce que pour moi, la route vers une adoption de la crypto-monnaie va pas vers un ETF. La route vers une adoption de crypto-monnaie va vers plus une compréhension de la technologie, avoir des gens qui ont des portefeuilles. Et ça, l'Europe s'y dirige. Hein. Et de toute façon, on le voit. Hein. Ce qui est intéressant dans les cryptos et dans la blockchain, c'est pas forcément déjà un que le BTC, deux que le B, que l'ETF.
L'Ethereum.
Et donc, bah, venant de ça, moi pour moi, l'ETF, c'est pas la priorité à avoir. Donc, il est
C'est pas le
pas.
vecteur.
C'est un vecteur, c'est une chose. C'est un vecteur qui n'a pas non plus été à l'origine des trois premiers bullruns. Donc, ça va pas. Enfin, donc, il a encore beaucoup de choses à prouver. Moi, je reste mesuré devant l'ETF pour deux raisons. La première, c'est que je préfère être le prudent quand tout le monde va dans une direction. Et la deuxième, c'est je trouve que on en a écrit des papiers et des papiers. Bon, vu tout ce qui a été écrit dessus, il va falloir. Enfin, on n'est pas du tout à ce niveau de réalisation. Donc, quelle est la part de science-fiction dans tout ce qui a été écrit?
Pensez que ça vient, que ça arrive au réel. Pensez que ça vient vraiment sur tout ce qui a été écrit, comme ce que tu partages. Un petit peu la
Voilà,
question de.
c'est OK, c'est un phénomène, mais bon, ça reste un phénomène très institutionnel, très régulé, qui n'a pas eu l'effet qu'on l'imaginait sur le cours du Bitcoin. Hein, il était complètement amplifié, cet effet-là.
Tout à fait. Du coup, je reviens
Alors,
un
les
petit peu sur.
prédictions, juste pour répondre à deux, trois questions que je vois un peu partout, sur pas mal de prédictions un peu partout. Alors, l'ADA. le Manta, tout ça. Alors Manta, c'est un projet en plus qui a été sorti en launch pool. Donc moi j'aime bien les projets du launch pool. Statistiquement, les projets du launch pool, ils vivent une belle vie sous 120 jours. Donc ils montent. Gala, ça, et Gala, je sais pas. Caspar. Alors je peux pas parler des coins qui sont pas listés. Donc c'est pas mon intérêt. Et sinon, bah oui, les projets du launch pool, je les regarde avec pas mal d'attention. Et justement, les Français, on truste bien la participation sur les launch pools.
Ok, le launch pool. Et donc, je voulais rebondir un petit peu sur ce que tu disais un petit peu avant, sur voilà, les key factors, les facteurs clés, la compréhension de la technologie, l'éducation, de par peut-être des produits comme le launch pool. Est-ce que ça permet aux nouveaux utilisateurs ou aux utilisateurs qui sont déjà dans l'écosystème de pouvoir se former, de pouvoir comprendre un petit peu plus en détail la blockchain? Je sais que voilà, Binance a l'académie. Il n'y a pas que Binance, bien sûr, qui permet l'éducation et la compréhension de la technologie. Mais est-ce que des produits comme le Launch Pool, ça y participe? Est-ce que ça, c'est un vrai vecteur d'adoption? La compréhension de la technologie, l'éducation. Comme nous, on travaille un petit peu tous les jours autour de ces objectifs de démocratisation, de vulgarisation, parce qu'on n'a pas toujours un vocabulaire, enfin, c'est pas toujours un vocabulaire accessible à tous. Donc, est-ce que ça, pour toi, c'est un réel vecteur de l'adoption?
Je pense qu'on surestime un peu le gap à franchir pour rentrer dans la blockchain. On a tous, je pense, appris la blockchain sans avoir de diplôme de blockchain parce que ça n'existait pas. Et donc, on a tous appris en faisant des transactions. Et pour moi, ce qui est intéressant dans la blockchain, c'est que, alors c'est un objet où on peut s'y perdre, mais il faut définir des bons objectifs. Si vous êtes curieux et technologique, bon, ça va être très intéressant d'aller dans les smart contracts, de comprendre comment ça marche, etc. Si vous avez un objectif d'investissement, il est important de comprendre comment utiliser les plateformes à votre avantage, comment les crypto-monnaies évoluent, etc. Donc c'est un formidable terreau pour apprendre des choses. C'est intéressant maintenant parce que dans une approche de cycle, en fait, si on va vers une approche de cycle, et on y va, et ça a toujours été plutôt dans cette direction, alors c'est toujours pas un conseil d'investissement, hein, éduquez-vous, faites vos recherches, mais dans une approche de cycle, le bull market commence, enfin, on est dans une tendance haussière générale, et on va avoir un emballement du marché dans cette deuxième moitié de 2024. Apprendre à ce moment-là, c'est trop tard. Faut avoir un temps d'avance. J'en suis à trois cycles, moi, personnellement. Ce sera mon troisième cycle. Donc, je connais des personnes qui sont encore plus vétérans. Ce qui est intéressant, c'est de voir les choses se répéter, mais ce qui est intéressant, c'est aussi d'arriver à se placer un peu en avance. Comprendre quelles sont les nouvelles crypto-monnaies, comprendre leur utilité, avoir testé les DApps, avoir fait des transactions. Moi, je vois des choses assez nettes. Une personne qui a fait 200 transactions, son niveau de connaissance, je l'estime très précisément versus une personne qu'on n'a pas fait. Et donc, en fait, pour moi, en fait, l'apprentissage en blockchain, c'est un peu comme la nage, c'est fait de cas pratiques. C'est peu la
Tout à fait.
théorie qui va te permettre d'apprendre, mais plutôt les cas pratiques.
Tout à fait, les cas pratiques. Et après, je voudrais rebondir là-dessus pour rajouter que voilà, effectivement, les transactions, mais c'est aussi comprendre ce qu'on fait. Parce que c'est pas parce qu'on envoie une transaction d'un point A vers un point B qu'on a vraiment réellement compris ce qu'on faisait. Donc
Non,
c'est
mais
déjà un petit.
justement, t'en as fait une, t'as pas vraiment compris, t'en as fait 50, à un moment, tu t'es posé la question.
Exactement, c'est se poser
Tu
la
vois,
question de voilà,
c'est-à-dire
qu'est-ce que
que il faut pas, enfin, la première transaction que vous ferez, les premières manipulations, la première création de wallet que vous ferez, vous comprendrez pas forcément tout, et c'est normal. Par contre, quand vous êtes, et on l'a tous fait, quand vous commencez à créer 5 ou 6 wallets pour participer à des airdrops, parce que vous vous êtes dit que peut-être, on ne sait jamais, et ben, à partir de ce moment-là, là, vous commencez à comprendre ce qui se passe en le répétant.
Tout à fait. Répéter les choses. Ne pas hésiter à lire les définitions. Enfin, je pense qu'on s'est éduqué à la blockchain de la même manière. Mais voilà, comprendre ce que c'est la différence entre un DEX et un SEX, un exchange centralisé ou un exchange décentralisé. Voilà, quelles sont les différences? Pourquoi on utiliserait tel outil dans notre situation ou pourquoi utiliser tel ou tel autre outil dans une autre situation? Et c'est de par la pratique, comme le dit si bien David, qu'on va apprendre. Mais souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on attend qu'on soit en bull run, donc comme le dit David dans la seconde partie de l'année 2024, pour pouvoir apprendre. Et c'est un petit peu là où on va faire pas des erreurs, mais on va croire qu'on sait alors qu'on ne sait pas. Tandis qu'on a le temps en bear market de pouvoir apprendre, de pouvoir utiliser les outils correctement, se positionner, comprendre fondamentalement comment fonctionnent les projets, un consensus, qu'est-ce que c'est qu'un consensus, à quoi sert une blockchain, à quoi sert ce projet, à quoi répond ce projet, etc., etc. Et du coup, je rebondis, je voulais te poser la question, toi David, où se placer? Comment les gens doivent se placer? Quels sont tes conseils pour eux, pour l'année 2024?
Alors, moi, je n'ai pas de direction précise. J'ai des pistes.
Des
Donc,
pistes.
encore une fois, ce n'est pas des conseils d'investissement, mais c'est des zones où au moins ça vous permettra de développer votre connaissance. Et après, bon, bah, les schémas se répéteront. Mais déjà, bon, les projets du Launchpad, c'est plutôt intéressant, et du Launchpool, c'est plutôt intéressant. Ils ont été revus par Binance, ils sont listés sur la plateforme. Donc, pour des cryptos qui sont assez émergentes, c'est des choses qui peuvent être à considérer, ou en tout cas avoir une stratégie de capture sur le Launchpad et sur le Launchpool. Bon, c'est à avoir. Je vois quand il y a des Launchpads que la collatéralisation des fonds va vraiment vers le BNB. Je vois peu de Français qui savent le faire. En fait, c'est assez drôle quand il y a un Launchpad, la plupart des gens disent, bah oui, mais j'ai pas de BNB. Bah oui, mais tu peux emprunter des BNB contre tes autres monnaies sur Vénus pour aller avoir des BNB. Donc il y a des petites optimisations de l'utilisation des plateformes qui est à acquérir. La deuxième chose, moi pour moi, et je suis très friand des univers DeFi, Cake, sous BSC, mais d'autres layers 2, hein, il n'y a pas de problème. Il faut être agnostique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on en connaît un, les autres sont un peu une répétition, donc on commence à comprendre un peu devant quoi on est, qu'est-ce que ça vaut, comment l'estimer. Donc c'est assez intéressant. Et bon, la troisième chose, c'est mine de rien, faut quand même s'attacher aux critères de confiance. Parce que quand le marché s'emballe, si vous voulez, ce qui est bien dans un bear market, c'est qu'il y a beaucoup moins de ponzi et d'arnaques, parce qu'il y a moins d'argent, il y a moins de liquidités. Par contre, quand la liquidité revient, vous allez avoir un ratio de projets successful ou même qui sont bien intentionnés qui va être bien, bien moindre, malheureusement. Alors ça, ce n'est pas un impondérable de la blockchain, c'est un impondérable de la vie. C'est-à-dire que là où il y a des humains, il y a aussi des mauvaises intentions.
Et alors du coup, ben, on peut rebondir un petit peu, on peut faire une passe là-dessus sur un petit peu les scams, les arnaques. Je vais d'abord te laisser la parole, mais comment on pourrait dire aux nouveaux venus, voilà, faites attention, regardez où vous mettez les pieds, comment se prémunir un petit peu de l'arnaque, du scam. Je pense que si justement, comme on le dit, voilà, la seconde partie de l'année 2024 va s'emballer. Donc, si je suis ce que tu dis, on devrait voir un nombre de scams, d'arnaques augmenter, n'est-ce pas?
Ouais.
Donc, comment se prémunir? Comment, voilà, je suis nouveau sur le marché des crypto-monnaies. Comment je fais la part des choses entre, parce qu'en fait, quand on est derrière les graphiques, le prix monte et le prix monte, que ça soit une arnaque ou pas, fondamentalement.
Ouais, mais le problème, c'est, enfin, déjà, le prix monte, mais le prix monte, c'est pas dit tout le temps.
Non, bien
Des fois,
sûr, le.
le prix baisse, hein. La première chose, c'est quand vous commencez. Déjà, commencer petit, c'est-à-dire, et je l'ai vu, et je le dis souvent à mes équipes, c'est je préfère un mec qui avait 300 euros et qui a fait 30 transactions à 10 euros qu'un mec qui avait 300 euros et qui a fait une transaction à 300 euros. Parce que après 30 transactions, il a pris 30 décisions, il est rentré, il est sorti, etc. Il s'y connaît dans son utilisation. Malheureusement, et je le dis comme ça, hein, malheureusement, aujourd'hui, le mythe du je vais acheter des cryptos, je vais les laisser dormir pendant 5 ans et je reviendrai, bon, c'est possible, mais sur 5 ou 6 cryptos. Bitcoin,
Oui.
Ethereum, BNB peut-être, et après quelques autres. Mais c'est quand même sur des marchés où la technologie va vite. Bah, si vous vous placez sur des crypto-monnaies, il est important de savoir ce que vous faites. Donc, quand vous commencez, restez sur des bases au départ. Commencez pas à aller trouver la promesse du petit coin qu'on ne connaît pas,
Voilà.
de telle nationalité, nanana, enfin voilà. Allez sur des bases pour au moins comprendre ce que vous faites. Et après, commencez à vous diversifier si vous avez envie, mais avec une exposition mesurée. Vous ne pouvez pas investir dans un shitcoin. Sans avoir des BTC, enfin une grande partie de BTC sur votre portefeuille. Donc c'est ça que je vois aussi comme erreur des débutants, c'est aller trop vite vers les altcoins et donc ne rien
Ouais.
comprendre entre une bonne promesse technologique et un bon projet et un beau white paper. C'est compliqué, mine de rien, et en crypto, l'expérience paye beaucoup. Le fait d'avoir vu beaucoup de cycles, bah, ça nous donne une vraie distance par rapport au projet. Et par opposition, la première fois que j'avais vu des projets, j'étais absolument incapable de vous dire ce que c'était qu'un bon projet versus un mauvais projet s'il se présentait bien les deux.
Oui, donc il y a des choses intéressantes dans ce que j'entends. Et moi, je reviendrai sur le mot fondamental, le white paper. Pour moi, le white paper, n'hésitez pas à aller éplucher les white papers des 20 premiers projets, comme le dit David, voilà, les valeurs sûres de l'écosystème. Donc là, on a entendu Bitcoin, Ethereum, BNB. On peut peut-être rajouter Cardano, XRP, des valeurs qui sont là depuis quelques temps déjà, qui ont de l'expérience. Donc dans le white paper, ça va être certes technique, mais vous aurez des informations complémentaires, les informations du projet, comment le projet fonctionne, qui sont les équipes, etc., la technologie. Ça, c'est des choses à regarder pour pouvoir comprendre l'écosystème, comprendre les blockchains, comprendre les projets sur lesquels vous souhaitez en gros investir ou avoir des crypto-monnaies, si on peut dire. Et ensuite, dans un second temps, pourquoi pas aller voir des shitcoins comme le dit David, ou pas, ça chacun peut le décider puisqu'il en existe sur le marché. Donc vous êtes libre de pouvoir le faire. Mais il est important de comprendre la technologie et de comprendre les différents projets dans lesquels vous voulez vous lancer, vous investir. Voilà. Ça, c'est une des choses qui vous permettra de vous prémunir des scams. Et donc j'ai lu un petit commentaire tout à l'heure. Le jeu, c'est de se faire scammer. Moi, je suis pas vraiment d'accord. Je suis pas d'accord avec ça, dans le sens où on se protège. Et pour gagner de l'argent, peut-être la première règle d'or, c'est d'apprendre à ne pas en perdre. Donc on apprend ce qu'on achète, on regarde les bases, on regarde les fondamentaux, et une fois qu'on a compris, on est en mesure peut-être d'acheter quelque chose. Voilà, ça ce serait peut-être mon conseil pour vous
Voilà.
prémunir du scam. Ouais.
Il y a beaucoup de discussions sur le white paper dans la discussion. Moi, je trouve que le white paper, c'est à moitié une promesse technologique qui, bon, voilà, donne un peu les jalons, à moitié aussi un beau papier marketing, hein. C'est-à-dire qu'on va faire ça, tu vas voir, ça va être génial. En Q3 2024, on a prévu ci, 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 ça. Bon, c'est gentiment amené. C'est-à-dire qu'il faut toujours être assez distant. Le white paper vous donnera un peu une vision de ce que pense l'entreprise à un instant T. Après, comme toute entreprise, les pivots sont possibles, les erreurs de route sont possibles. Moi, mon plan, j'adore faire des plans parce que comme ça, le lendemain, je les détruis. Voilà, c'est voilà le white paper. Je reste quand même les nouveaux. Voilà, c'est surtout ça. C'est les nouveaux white papers ont beaucoup moins de valeur que par exemple le white paper de Bitcoin. Le white
Certes.
paper de Bitcoin va vous donner des bases de c'est quoi un projet blockchain intelligent, bien pensé, etc. Le white paper d'Ethereum, etc. va être vraiment intéressant. Les white papers, on les relit souvent à l'après, pas vraiment au début. Au début, ça veut tout et rien dire, hein. Pour moi, ce qui est important dans un début, c'est la capacité d'exécution des équipes.
Tout à fait.
C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont prêtes? Et ça va être très con, mais c'est très, moi, je juge très l'aspect communauté, efficacité communautaire de l'équipe. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est un peu partout? Est-ce qu'elle présente bien? Est-ce qu'elle fait des AMA un peu partout? Est-ce qu'elle a une façon intéressante de présenter son app? Est-ce qu'elle développe un écosystème autour d'elle? Tout ça, c'est ça que je vais juger. Le nombre d'utilisateurs de la DApp, toutes ces choses-là. c'est des données publiques, hein, parce que voilà, vous pouvez retrouver le nombre d'utilisateurs d'une DApp via la blockchain. Donc tout ça, c'est des datas qui sont pertinentes pour moi.
Tout à fait. Le nombre de développeurs, le nombre de IP qui vont passer dans l'année, par exemple, etc. etc. Comment vit la communauté, comment évolue le projet. Parce que voilà, le white paper, c'est une présentation à l'initial du projet ou des idées des équipes, comme le souligne David. Mais ça ne veut pas dire pour autant que derrière, il y aura les rendus. Il y aura en temps et en heure, qu'est-ce qu'on s'est dit, qu'on allait faire, etc. etc. Donc il faut bien regarder aussi tout à fait ce que les projets mettent en œuvre sur le papier, sur le terrain, plutôt que sur le papier. Oui. Du coup, on parle un petit peu de cette roadmap, ça me fait un petit peu rebondir. Récemment, Vitalik Buterin a mis en avant une roadmap pour Ethereum. Qu'est-ce qu'il en est pour cette année 2024? Je sais qu'on en a déjà un petit peu discuté tous les deux, David, mais est-ce que tu veux nous partager un petit peu ta vision des choses par rapport à ce grand projet d'Ethereum? Est-ce qu'il y a des grands rendez-vous pour l'année 2024?
Moi, je pense que ça va être un peu calme sur Ethereum en 2024. On en discutait tous les deux avant le live. Est-ce qu'on parle de l'ETF Ethereum? Moi, mon avis, c'est qu'il va se passer beaucoup de choses avant que l'ETF Ethereum arrive. Donc, on parlera d'autres sujets avant que l'ETF Ethereum arrive. Et je ne le vois pas arriver avant les élections américaines. Pour moi, c'est. Et alors, son impact, j'en ai bien aucune idée. L'AMA, c'est ça, c'est le live. Après, sur Ethereum, Vitalik avance. Bon, on a eu une première mise à jour il y a 2-3 ans qui s'est bien passée. Donc, je ne vois pas de raison que ça continue à mal se passer. Maintenant, on a l'arrivée de beaucoup de layers alternatifs. Qui commence à aussi faire le boulot d'Ethereum. C'est intéressant parce que, en fait, on se rend compte de quelque chose dans la blockchain, c'est la volonté décentralisée jusqu'au bout du bout du bout. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faudrait même pas qu'il y ait un protocole qui soit majoritaire. Ah oui, parce que s'il s'effondre, ça crée une vulnérabilité. Donc, de la même façon qu'il ne faudrait même pas qu'il y ait un seul stablecoin qui soit majoritaire. Donc, en fait, ça va dans le sens de l'histoire où il n'y aura pas que Ethereum en tant que protocole de DApp majeur, il y en aura plein d'autres.
Tout à fait. Non, mais ça, c'est sûr qu'il y en aura plein d'autres, comme aujourd'hui, il existe plein de crypto-monnaies, mais est-ce que c'est pas justement Vitalik, est-ce qu'il ne fait pas une course trop ambitieuse pour réduire les frais de sa blockchain? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème? Enfin, ce n'est pas aujourd'hui, mais ça fait déjà un moment. Mais est-ce que ce n'est pas le problème d'Ethereum aujourd'hui qui va permettre justement à d'autres layers, à d'autres solutions de voir le jour? Parce que c'est trop cher.
J'en sais rien. J'en sais rien et je serais bien, comment dire, j'en serais bien prétentieux de dire, d'en parler à la place de Vitalik.
D'accord.
C'est-à-dire que... elle a beau être chère, cette blockchain, elle marche quand même vachement bien et depuis longtemps, elle est résiliente.
C'est vrai.
C'est déjà une bonne chose et c'est déjà, c'est même l'essentiel. J'attends de voir pour les autres. Et justement, tous ces Layer 2 ont prouvé même plutôt qu'ils avaient une grande difficulté à la résilience. Donc, ils vont maturer et ça, c'est tant mieux. Pour moi... Justement, c'est bien qu'il y ait un peu de compétition. Ça pousse Ethereum à accélérer ses développements tout en continuant à bien faire les choses. Quand un acteur a le monopole, de toute façon, il s'enlise, il s'encrasse, il devient un peu feignant. Donc, l'arrivée de ces layers 2, c'est très bien. Est-ce que Ethereum est mort? Je ne crois pas du tout. Je crois que c'est bien, bien trop tôt pour le dire. Et quel est le vrai problème? Pour moi, c'est juste ça avance.
Du coup, j'entends quelque chose qui me fait un petit peu tilter. Est-ce qu'on n'a pas un nouveau vecteur d'adoption des crypto-monnaies? Les travaux justement sur les Layer 2 autour de Bitcoin? Bon, ça fait déjà un moment que c'est là, mais est-ce que justement ça ne doit pas monter un petit peu en maturation pour pouvoir avoir des cas d'utilisation à plus grande échelle, une adoption un petit peu plus forte? Qu'est-ce que tu en penses?
Pour moi, le narratif qui va se développer juste après le halving, si vous me demandez mon avis et que après vous faites vos recherches et que vous ne le prenez pas pour un conseil d'investissement, encore une fois, mais c'est les ordinales. On voit beaucoup de marketplaces d'ordinaires qui se sont mis en place. Ça, voilà, fin janvier, on est encore tôt par rapport à un halving, mais on se rend compte que quand le halving va arriver, les mineurs auront tendance à vouloir doper quand même le nombre de transactions sur Bitcoin. Donc voilà, par où les ordinals seront une très belle voie pour ça. Donc pour moi, y a un vrai truc à aller regarder sur les ordinals du BTC pour le halving.
Ok, l'ordinal pour les ordinales pour 2024. Ok. Et du coup, on n'a pas parlé en détail. Voilà, on en a parlé rapidement, succinctement. On a entendu le mot. Voilà. Mais le halving. Donc halving pour le mois d'avril 2024. C'est évidemment un des grands événements de cette année. Moi, ma question c'est, est-ce que ça va faire comme les autres cycles, comme les autres cycles du halving qu'on a connus précédemment?
Moi, ma question, c'est pourquoi ça ferait pas comme?
On n'est
Mais
pas sûr de rien.
c'est ma prédiction à moi. C'est-à-dire que j'analyse le marché du Bitcoin comme un marché très cyclique où le halving est un point de départ. Et je suis à peu près convaincu, mais encore, ça n'engage que moi. Ne me croyez pas, les amis. Je suis encore convaincu que le marché va se comporter de la même façon. Ça a toujours été ces phases-là qui ont été révélatrices. Maintenant, voilà, ce n'est que ma lecture.
Donc on parlait de ce halving là, donc la récompense des mineurs qui va être divisée par deux au cours du mois d'avril, a priori. Est-ce que ce cycle, si on peut appeler ça le cycle de bull run, ou voilà, est-ce qu'il sera plutôt sur la moitié d'année 2024 et 2025, ou alors quelque chose de très court? Est-ce que ça, on a déjà des idées là-dessus? Est-ce que par exemple la course du hash rate, c'est un critère à prendre en compte aussi par rapport à ce halving? Qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses de ce hash rate qui monte sans cesse?
J'en pense pas grand-chose, c'est comme d'habitude, hein. Ça reste, c'est si tu vas vers une philosophie où c'est cyclique, bah oui, le hash rate va monter, mais les transactions sur Bitcoin montent aussi. Voilà.
Ça
Fin
se
de
passe bien.
l'histoire.
Fin de
Voilà.
l'histoire. Ok.
Enfin, le problème, c'est que si on met trop de paramètres dans son analyse, au bout d'un moment, on peut plus rien.
Ok.
Avoir une stratégie, c'est pas avoir choisi tous les paramètres, enfin, c'est pas prendre tous les paramètres en compte. Avoir une stratégie, c'est avoir été orienté sur tous les paramètres. C'est-à-dire que le hash rate, le hash rate, je m'en fous, par exemple. C'est mon analyse à moi, hein. Mais c'est trop technique, je m'en fous un peu. Et pour moi, c'est juste une question de, ça apporte une stimulation du marché à un moment où justement il y avait peu de liquidité, donc ça apporte beaucoup de liquidité. De ce biais-là, vers le marché des altcoins. Et en même temps, ça augmente et ça oblige le réseau à augmenter ses transactions en termes de nombre pour gagner de l'argent. Donc il va se passer beaucoup de choses sur le marché à ce moment-là, sur un marché qui va être très réceptif.
Ok. L'emballement du marché pour la seconde moitié de 2024, un des grands événements après le halving. Et peut-être
Alors, pourrait-on
en.
atteindre les 75K, 100K prochainement en phase de halving ou même en 2024? Ben oui, on pourrait. Maintenant, est-ce qu'on va? C'est une vraie question. Je ne sais pas. Je ne sais pas jusqu'où ça peut monter si ça monte. Et je pense que personne ne le sait. Donc, ceux qui seront bien avisés de vous dire qu'ils prédisent quelque chose. Reste sur vraiment quelque chose de très au doigt mouillé.
Personne ne peut prédire l'avenir. Jusque-là, on est d'accord. Et peut-être pour faire un volet de clôture sur les grands événements marquants de l'année 2024, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu du règlement MiCA et de la régulation qui se met en place doucement mais sûrement, de
Ouais,
l'algorithme
bah,
de l'écosystème?
je vais te piéger un peu, c'est est-ce que tu peux nous en parler, justement?
Ouais, en fait, aujourd'hui, bon, alors je le mets dans les grands événements de 2024, puisqu'en fait, ce règlement européen devrait être normalement applicable au 30 décembre 2024, donc juste avant l'année 2025. Et en fait, on voit globalement que c'est une réglementation européenne qui vise en fait à unifier la réglementation entre tous les pays européens pour pas que chaque pays ait sa propre loi, sa propre régulation, sa propre réglementation vis-à-vis des cryptoactifs. Je pense, moi, pour ma part, que c'est une bonne chose. Je parle pas du règlement en lui-même, je pense par exemple à la régulation qui permet de réduire le nombre de scams peut-être, qui permet de, comment je pourrais dire ça? Pour l'adoption, c'est quelque chose qui donne du crédit en fait. Je pense que ça donne du crédit aux crypto-monnaies, à ce secteur, à ce nouveau secteur. Comme on disait, je crois, un petit peu au début de notre podcast, c'est avec la régulation qu'on va vers l'adoption aussi. Voilà, ça renforce les choses. Donc ça, c'est plutôt mon avis sur le règlement européen MiCA.
Oui, alors pour un acteur comme nous qui sommes une plateforme, avoir un modèle qui marche pour tous les pays, c'est plus intéressant que de devoir développer 27 fois la plateforme. Et en même temps, ça nous permet d'attaquer plus de pays en Europe parce que dans certains pays, il n'est pas possible d'adapter le modèle, enfin, ce n'est pas économiquement viable d'adapter pour un si petit marché à l'heure actuelle. Donc ça donne des perspectives. Toujours est-il que c'est comme tout, c'est une mise en application qui est compliquée, lourde. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et on se rend compte de quelque chose, c'est il n'y a pas d'experts. Hein. Il n'y a pas d'experts, il n'y a pas de... C'est entre l'innovation et le légal, la compliance. C'est très, très technique. Et donc, ça se fait dans le détail. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que c'est fin 2024. On est en fin janvier 2024, donc c'est vraiment la fin de l'année. Il y a encore beaucoup de travail autour de ça. On verra ça. Voilà, on pliera le dossier voilà, en décembre et on regardera ça. Là, on en est encore à des étapes de travail avec tout le monde et avec encore beaucoup, beaucoup de travail pour arriver à cet objectif de la part de tous les acteurs. Hein,
Oui, de la part de tous les acteurs. Nous sommes d'accord de ce côté-là. Encore beaucoup de chemin à parcourir pour l'adoption, que ce soit au niveau de la technologie, de la régulation ou de toute autre chose qui pourrait se passer dans l'écosystème. Mais en tout cas, on est presque sûr que cette année, il va se passer des choses avec ce halving du Bitcoin. David, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter est-ce qu'on a oublié quelque chose sur les grands événements marquants de l'année 2024?
Bah, non, 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 mon anniversaire est le 18 décembre, si les gens veulent, mais pas plus que
On a
ça.
encore un peu de temps, ça va, on est
Voilà,
gentil.
vous avez le temps. Mais sinon, je pense, sur 2024, non. Sur la sécurité, on pourrait en parler des années et des heures entières. En tout cas, sur l'éducation, c'est soyez curieux, expérimentez des choses. Moi, j'ai toujours eu cette approche, des fois scientifique, qui est de se dire si je ne sais pas comment ça marche, ben, en faisant une ou deux transactions, en testant, je peux savoir. Donc, des fois, c'est intéressant juste de tester les choses. Pas forcément pour un gain, mais juste pour comprendre. Et ça vous amène après à mieux comprendre les modèles suivants. Je pense qu'en ce moment, c'est très intéressant d'y passer du temps parce que c'est du temps gagné quand le marché va s'emballer.
Tout à fait. Le gain de temps, les transactions, la réalisation, prendre en main les outils. Et c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir apprendre et vous former correctement à tout ce nouveau marché des crypto-monnaies.
Ouais.
Ouais, ben David, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci à tous de nous avoir suivis. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot ou on clôture comme ça nos grands événements de l'année 2024? En tout cas, moi, je suis impatient de voir ce qui va se passer sur le marché. Bon, comme toujours, même en bear market, mais c'est vrai que là, pour l'année 2024, on va voir ce qui va se passer et c'est très intéressant.
Bah non, merci à tous. Vous étiez 300, c'est énorme, je trouve. Je suis
Alors,
vraiment,
c'est
vraiment
en
content de
live.
l'avoir fait. Ouais,
Ça veut
300
dire
en
que
live,
ouais, plus
c'était
de
pas
300
mal.
personnes en live. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que ce contenu vous a bien intéressé et on vous retrouvera prochainement dans une prochaine édition.
Merci, merci à
Merci,
tous.
merci. Au revoir.